Chapitre 28. Une porte que personne ne peut fermer. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Telles sont les paroles adressées à ceux qui sont dans la condition de l'Église évangélique de Philadelphie. Cette église est celle qui s'est développée pendant la proclamation de la proche venue du Christ, ou ceux qui ont gardé ce qu'ils ont entendu sur ce sujet. Car il dit à l'église de Sardes, celle qui précède immédiatement Philadelphie, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Apocalypse 3, verset 3. L'église de Sardes, alors, a entendu la doctrine du retour proche du Seigneur. Ceux qui gardèrent ce qu'ils entendirent agirent en fonction de la vérité, tandis que le chandelier était enlevé, et ils devinrent l'église de Philadelphie, à laquelle Jésus dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. » Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, versets 10, 11. C'est à cette église de Philadelphie qu'il dit alors « J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer ». Ici donc, nous avons la déclaration emphatique des Saintes Écritures que ceux qui sont poussés, dans la providence de Dieu, à avertir le monde de la venue du Seigneur et à implorer les gens à se préparer à rencontrer Dieu, ont la faveur spéciale de Dieu dans leur œuvre. Les hommes peuvent essayer d'entraver, d'arrêter leur mouvement, de fermer la porte de proclamation, mais la voix de Dieu retentit toujours au-dessus de toute clameur. « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » 74 ans de progression. Dans les pages précédentes de ce livre, nous avons couvert brièvement 74 années, de 1831 à 1905, retraçant la naissance et la progression du message adventiste, et en particulier le message du troisième ange. Nous avons montré comment, sortant de l'obscurité et de la pauvreté, ce message a progressé avec une force et une puissance augmentant d'année en année jusqu'à ce qu'il ait des missions dans le monde entier. Ce n'est certainement pas parce que le message est agréable au cœur charnel qu'il a ainsi prospéré, car il met en première ligne le sabbat du Seigneur, dont la célébration implique un grand sacrifice, exigeant de ne pas entreprendre d'affaires avec le monde pendant la journée laïque la plus active de la semaine. Ce n'est pas non plus par manque d'opposition qu'il a progressé, car il en a rencontré depuis le début, et même du genre le plus féroce par les gens du dehors, ainsi que des perplexités causées par des personnes non consacrées qui pour un temps s'étaient retrouvées dans nos rangs. Quant à la situation causée par les desseins et les efforts des ennemis du dehors, nous pouvons bien dire avec les mots de David, le psalmiste, « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 124, versets 1 à 8. De l'aide dans le Seigneur. Le Seigneur déclare qu'il a mis devant son peuple une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Il n'est pas étonnant, alors, que le message soit allé progressivement de l'avant. C'est le message de Dieu au monde, et il doit réussir. Dans Apocalypse 7, verset 2, le travail pour préparer un peuple à tenir bon lorsque le grand jour de la colère de Dieu viendra est symbolisé par un ange venant de l'Orient, ou, comme certains traduisent, comme le lever du soleil. Contemplez l'aurore du jour. D'abord, des rayons de lumière apparaissent à l'est. Ceux-ci se fondent dans une plus grande clarté, jusqu'à ce que le large et distinct disque du soleil soit vu. Alors que le roi du jour monte au zénith, sa lumière, sa chaleur et son pouvoir deviennent de plus en plus vifs. Telle a été, en effet, l'évolution du message du troisième ange depuis 1848, lorsque ces vérités ont pris une forme distincte et nous avons montré, depuis cette date, une croissance régulière qui est merveilleuse. Nous ne pouvons pas expliquer cela d'aucune autre façon, si ce n'est que le Seigneur prouve sa parole à ceux qui, de nos jours, alors que son salut est sur le point de venir, gardent le sabbat pour ne point le profaner, Ésaïe 56, verset 2, et qui retiennent leurs pieds pour ne pas faire leur volonté pendant le saint jour de Dieu, gardant ainsi tous les commandements de Dieu, par la foi de Jésus, comme le déclare le message du troisième ange d'Apocalypse 14. Le Seigneur a dit de ces individus, par le prophète Ésaïe, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice, l'Éternel notre justice, Jérémie 23, verset 6, marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Ésaïe 58, verset 8, 13. Avec de telles assurances, comment pouvait-on s'attendre à autre chose si ce n'est que l'œuvre soit un succès? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment peuvent-ils prospérer? En regardant la situation en 1846, lorsque Joseph Bates commença à écrire ce premier livre, le premier livre jamais publié sur la question du sabbat par les adventistes du septième jour, ayant 12 centimes et demi en tout et pour tout dans ce monde, et étant appelé à les dépenser avant la fin de son premier jour d'écriture, et en voyant frère James White imprimer sa première petite page, « Present Truth », « Vérité présente », avec l'argent gagné en fauchant des champs de foin, et en voyant le journal gratuitement à tous ceux qui voudraient le lire, et parlant de cela comme d'un message qui irait jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, regardant ces faibles commencements, on pourrait se demander, selon les paroles des gens de l'époque d'Amos, comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible. Amos 7, verset 2. Contrastant cela avec la situation en 1905, alors que la publication des vérités du message est réalisée dans 20 maisons d'édition, situées dans diverses parties du monde, souvent poussées à leur plus grande capacité pour satisfaire la demande de littérature, nous pouvons en effet dire, voici, une porte ouverte que personne n'a encore fermée. Concernant ceux qui supposèrent au début que l'œuvre ne pourrait jamais réussir, nous pouvons dire, citant les paroles par lesquelles le prophète Zacharie condamna ceux qui pensaient entraver l'œuvre de Dieu dans la reconstruction de Jérusalem, « Qui méprise le temps des petits commencements ?» Zacharie 4, verset 10. Des choses qui semblent être des montagnes de difficultés sur le chemin, le Seigneur dit par le prophète « La montagne aplanie. » « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. » Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, « Grâce, grâce pour elle. » Zacharie 4, verset 7. Il en a été ainsi dans l'œuvre du message du troisième ange, et il en sera de même jusqu'à ce que la clé de voûte soit posée, ou en d'autres termes, jusqu'à l'achèvement des travaux. Regardez le petit nombre d'adventistes en 1846, pauvres en moyens, pauvres dans tous les sens du terme, à l'exception de la foi en Dieu et de réserve de vérité, et voyez dans quelle proportion leur œuvre a augmenté. Pensez aux installations possédées, aux livres tous préparés, traduits et imprimés dans les diverses langues du monde, et aux centaines de colporteurs mettant ces livres dans les maisons pour une valeur de 400 000 dollars par an. Avec la continuelle bénédiction de Dieu sur l'œuvre, nous pouvons regarder vers le succès. Avec ces facilités et ces organismes, dont le nombre augmente de mois en mois, avec la confiance en Christ, nous ne pouvons que nous attendre à l'accomplissement de ce que Salomon a chanté au sujet de l'Église de Dieu alors qu'elle sortait du désert. « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière ?» Cantique des Cantiques 6, verset 10. Aidé par le don de prophétie. Non seulement nous avons vu que la providence du Seigneur a ouvert la voie à la propagation de la vérité, et sa bénédiction remarquable a aidé les efforts déployés pour avancer dans les voies de sa providence, mais dans la naissance et la progression du message du troisième ange, il a communiqué avec son peuple à travers le don de prophétie. Cela n'a pas été sous la forme d'une nouvelle révélation qui prendrait la place de la Bible, et ce n'est pas d'une manière à pervertir les enseignements des Écritures, mais pour révéler le danger à s'écarter, de nos jours, de la simplicité de l'Évangile du Christ, et lorsque les gens sont en danger d'être influencés par la tendance de ce siècle, d'être satisfaits par une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Considérant ce sujet à travers l'exemple, Jacques 5, verset 10, des anciens prophètes, ce qui est une des règles que le Seigneur nous a données par lesquelles ces manifestations sont attestées, nous trouvons les mêmes raisons pour lesquelles ces manifestations sont aussi nécessaires aujourd'hui qu'elles l'étaient alors, à savoir la possibilité, en tout temps, d'être détourné de la ligne de la vérité par les doctrines et les pratiques propres à notre époque. L'apôtre Paul, en parlant de la manifestation des dons que le Seigneur a placés dans l'Église, dit qu'ils sont « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4, versets 12 à 16. Les mêmes objections qui sont soulevées contre les manifestations du don de prophétie, à l'heure actuelle, ont pu être avancées avec la même force dans les temps anciens. Par exemple, nous avons les Écritures, et donc nous n'avons aucun besoin de ces dons. Ces mêmes Écritures nous disent, cependant, que le Christ a placé ses dons dans l'Église pour qu'ils fassent leur travail jusqu'à ce qui est parfait, l'état parfait, soit venu, et de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, versets 6 à 7. Qu'avons-nous besoin de prophètes ? Le peuple d'autrefois aurait pu raisonner qu'ils avaient la loi morale de Dieu écrite de son propre doigt sur des tables de pierre, qu'ils avaient les lois, les jugements et les instructions qui avaient été dites à Moïse de la bouche de Dieu et qui avaient été soigneusement écrits. Que fallait-il donc de plus ? Mais malgré toutes ces excellentes vérités qu'ils avaient en leur possession, Dieu fut heureux, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, de parler à nos pères par les prophètes. Nous constatons que les témoignages donnés par les différents prophètes, tels qu'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée et d'autres, enseignèrent dans chaque cas le même grand principe concernant l'obéissance à Dieu. Mais chaque prophète avait des reproches particuliers destinés au peuple de son temps, concernant sa tendance à se laisser détourner du saint et sacré principe de ce qui est juste par les coutumes prévalant à l'époque à laquelle la prophétie était donnée. Besoin des dons. On pourrait demander, puisque non seulement nous avons l'excellente instruction de l'Ancien Testament, mais en outre, les paroles de notre Sauveur lui-même et des apôtres, qu'avons-nous donc besoin de plus de lumière ? Le fait demeure que ces mêmes saints apôtres ont indiqué que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les hommes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, et que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Compte tenu de tout cela, Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils ne sont pas dans les ténèbres pour que le jour du Christ les surprenne comme un voleur, mais qu'ils sont des enfants de lumière, et il les exhorte à examiner toutes choses concernant les prophéties et à retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, versets 4, 5, 20, 21. Ceci revient à leur dire que les gens qui attendront la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui seront enfin trouvés préparés pour ce jour, auront de bonnes et véritables manifestations du don de prophétie parmi eux.
Signe de la fin. Nous vivons à une époque où les signes sont abondants de tous côtés que le jour du Seigneur est proche. Nous vivons à l'époque même où un peuple devait apparaître qui garderait tous les commandements et qui aurait également le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. L'esprit de prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Que constatons-nous ? Qu'au cours des 60 dernières années, un tel peuple est apparu, porteur d'un tel message, au milieu duquel le don de prophétie s'est manifesté. En testant le don manifesté par Madame E.J. White selon les règles de la Bible, nous avons vu qu'il supporte l'épreuve en toutes choses. On n'a pas trouvé, du début à la fin, dans tous les écrits de Madame White, une seule ligne qui donnerait la moindre licence pour pécher ou qui tolérerait le moindre écart de la parole de Dieu. Ces écrits ne sont jamais placés au-dessus de la Bible, mais ils exhortent constamment à la plus grande étude de la parole de Dieu, pointant vers elle comme étant le grand standard par lequel nos vies seront examinées dans le jugement final. Dans ces écrits, le Christ est exalté devant nous comme le seul modèle à suivre. De la manière la plus vivante, il est déclaré être notre seul espoir de victoire ici-bas, notre seul refuge devant la colère à venir, le seul nom et le seul moyen par lesquels nous puissions être sauvés. Un hommage personnel. En ce qui concerne Madame White et la nature de son œuvre, ce qui suit est donné, ayant été écrit en 1877 par quelqu'un qui l'avait connu et qui avait étudié son œuvre pendant de nombreuses années. Et après environ 53 ans de tests et d'observations attentives, je donne mon endossement sans réserve à chaque sentiment exprimé ici. Concernant le caractère chrétien de Sir White, je demande la permission de dire que je pense savoir quelque chose à ce sujet. Je la connais depuis 18 ans, plus que la moitié de l'histoire de notre peuple. J'ai été plus d'une fois dans sa famille, parfois plusieurs semaines de suite. Ils sont venus dans notre maison et dans notre famille plusieurs fois. J'ai voyagé avec eux presque partout. J'ai été avec eux en privé et en public, en réunion et hors de réunion. Et j'ai les meilleures chances de connaître quelque chose de la vie, du caractère et de l'esprit de frère et sœur White. En tant que ministre, j'ai eu affaire à toutes sortes de personnes et à tous les types de caractères, jusqu'à ce que je crois pouvoir juger quelque chose de ce qu'une personne est après des années au moins de connaissances intimes. Je sais que Sir White est une femme modeste, bonne, noble. Ses traits de caractère ne sont pas simplement une façade ou cultivés, mais ils jaillissent avec grâce et facilement de sa disposition naturelle. Elle n'est pas vaniteuse, propre, juste et suffisante, comme le sont toujours les fanatiques. Je les ai toujours trouvés pleins de prétentions, de fierté, prêts à donner leur avis, vantant leur sainteté, etc., mais j'ai toujours trouvé Sir White l'inverse de tout cela. Une amie des pauvres. N'importe qui, le plus pauvre et le plus humble, peut faire appel à elle librement, pour des conseils et du réconfort, sans être repoussée. Elle prend toujours soin des nécessiteux, des pauvres et des souffrants, subvenant à leurs besoins et plaidant leur cause. Je n'ai jamais fait connaissance avec une personne qui ait la crainte de Dieu aussi constamment devant elle. Elle n'entreprend rien sans prière fervente à Dieu. Elle étudie constamment et avec soin la parole de Dieu. J'ai entendu Sir White parler des centaines de fois, j'ai lu tous ses témoignages de part en part, la plupart d'entre eux plusieurs fois, et je n'ai jamais été en mesure de trouver une phrase immorale dans leur ensemble, ni quelque chose qui ne soit pas strictement chrétien et pur. Rien qui éloigne de la Bible et du Christ. Mais j'y ai trouvé les appels les plus sérieux à obéir à Dieu, à aimer Jésus, à croire aux Écritures et à les étudier sans cesse. Je ne peux compter les fois où j'ai reçu un grand bénéfice spirituel des témoignages. En effet, je ne les ai jamais lus sans me sentir condamné pour mon manque de foi en Dieu, mon manque de dévotion et mon manque de zèle pour sauver les âmes. Si j'ai un quelconque jugement et discernement spirituel, je déclare que les témoignages sont du même esprit et de la même teneur que les Écritures. Pendant 30 ans, on peut maintenant dire 60 ans, ces témoignages ont été crus et lus parmi notre peuple. Quel effet ont-ils eu sur eux? Les ont-ils éloignés de la loi de Dieu? Les ont-ils conduits à abandonner la foi en Christ? Les ont-ils conduits à rejeter la Bible? Les ont-ils conduits à être corrompus, immoraux? Je sais qu'ils se comparent favorablement à toute autre confession chrétienne.
Une chose que j'ai remarquée, c'est que les adversaires les plus acharnés des visions de Sir White admettent qu'elle est chrétienne. Comment peuvent-ils faire cette admission? Je ne le sais pas. Ils essaient d'expliquer les choses en disant qu'elle est trompée. Ils ne sont pas en mesure de mettre le doigt sur une seule tâche dans toute sa vie, ni sur une phrase immorale dans tous ses écrits. Ils doivent admettre qu'une grande partie de ses écrits sont excellents, et que celui qui suivrait tout ce qu'elle dit serait un bon chrétien, garanti d'aller au ciel. Ceci est bien plus qu'étrange, si elle est un outil du diable, inspiré par Satan, ou si ses écrits sont immoraux ou les caprices de son propre esprit. Des étrangers témoignent des écrits. Alors que nos périodiques contenant les écrits de Madame White sont envoyés partout, Ils sont recherchés par les individus les plus humbles, craignant Dieu et consacrés. Commentant ce qu'ils lisent, ils disent « Nous sommes particulièrement intéressés par les écrits de Madame White. Ils sont si pratiques, si pleins d'instructions de nature à nous rapprocher du Seigneur et à nous rendre plus humbles, craignant Dieu et consacrés. Ces écrits sont tellement dans la lignée de l'Écriture qu'il me semble, alors que nous les lisons, que Madame White doit être inspirée pour écrire de la manière qu'elle le fait. » Tel est le témoignage de dizaines de personnes qui sont en correspondance avec nos missionnaires et qui n'ont pas la moindre indication que les idées de Madame White sont reçues de Dieu en vision. Source d'opposition. Ayant devant nous l'impression produite par ce don, la question se pose : d'où et pourquoi une opposition a-t-elle surgi face à la manifestation de ce don ? Et quel a été le résultat pour ceux qui s'opposèrent ? Après avoir étudié attentivement cette question depuis 1852, j'ai constaté que, la plupart du temps, l'opposition à cette manifestation est venue de ceux qui étaient condamnés pour des défauts de caractère, pour de mauvaises habitudes alimentaires ou pour un mauvais mode de vie. Beaucoup de personnes reprises protestaient qu'elles n'étaient pas aussi mauvaises que le témoignage les représentait, et elles montreraient qu'elles pourraient garder la vérité tout en allant à l'encontre de la répréhension donnée. Le temps a montré que la grande majorité de ces personnes ont renié leur foi et ont quitté les rangs. Certaines ont vu leur erreur et ont saisi la vérité plus fermement. La question se pose, si ceux qui s'opposent à ce don sont guidés par le Seigneur, pourquoi perdraient-ils leur spiritualité et s'éloigneraient-ils de Dieu ? La règle de notre Sauveur est qu'un arbre doit être reconnu à son fruit. Il insiste en affirmant qu'un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. L'échec de l'opposition. Nous nous rappelons de cas où une opposition organisée a été soulevée contre les témoignages de Madame White, déclarant que leur œuvre aurait beaucoup de succès dès qu'ils se débarrasseraient des témoignages. Ce fut cependant l'échec total de l'accomplissement de leurs espoirs. Après des années de lutte, ils n'ont pas montré plus de zèle à propager la vérité du sabbat dans le monde que ceux de leur espèce ne l'ont fait il y a 49 ans. S'ils faisaient l'œuvre du Seigneur, pourquoi leur message n'a-t-il pas prospéré davantage ? Où est le succès ? D'autre part, alors que nous regardons le message par lequel les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont proclamés au monde entier, un message qui est associé à cette manifestation du don de prophétie, avec ses conseils, ses instructions et ses reproches, nous voyons qu'il a progressé constamment depuis son début jusqu'à maintenant. Obéissant aux conseils du Seigneur donnés à travers ce don, allant de l'avant avec la force du Seigneur, le message, comme nous l'avons montré, a fait le tour de la terre et est en train d'être proclamé à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. De ces progrès passés, nous pouvons dire la parole de Dieu suivante a été vérifiée. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vraiment, la main de Dieu s'est manifestée dans le succès, depuis la naissance et pendant la progression de ce grand mouvement adventiste jusqu'à présent, et pour l'avenir, nous comptons sur l'accomplissement certain de sa parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Avec cette confiance, nous pouvons chanter avec pleine assurance. Car il a été avec nous, et il est toujours avec nous, et il a promis d'être avec nous, jusqu'à la fin.